Bonjour à toutes et à tous, ici Marie-Laure Méolens et bienvenue dans ce nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social. Au sein du cabinet Victoire Avocat, nous avons à cœur d'apporter des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. L'épisode d'aujourd'hui fait suite aux nombreuses interrogations que nous avons reçues au cabinet relatives à l'utilisation de l'outil informatique sur le lieu de travail. Ordinateur, mail, internet, réseaux sociaux, comment se passe l'usage de ces supports au sein de l'entreprise ? Décryptage. Alors d'abord, qu'en est-il concernant l'ordinateur professionnel qui est confié aux salariés dans le cadre de ses fonctions ? Donc évidemment, on remet cet outil aux salariés au sein de l'entreprise et il est fréquent que vous ayez tendance clairement à stocker des informations, parfois même des informations de nature personnelle, sur cet outil que l'on vous a remis et avec lequel vous allez effectuer vos missions au quotidien. C'est une pratique qui est admise du moment que l'usage personnel du matériel professionnel se fait dans un cadre raisonnable. Le salarié va donc avoir le droit de se ménager un espace personnel sur l'ordinateur professionnel. Néanmoins, il convient d'être extrêmement vigilant parce que l'employeur pourra parfaitement accéder à ce support et à tout ce qui est donc stocké sur le matériel d'origine professionnelle initialement, excepté si vous avez identifié les fichiers ou les dossiers comme personnels. Alors, on a eu plusieurs exemples dernièrement. Le seul fait d'intituler un fichier ou un dossier « mes documents » ne suffit pas, clairement, pour que l'employeur ne puisse pas y accéder. Si vous intitulez votre dossier ou vos fichiers sous votre prénom, par exemple, Claire, Alain, que sais-je, là encore, ça ne suffit pas. L'employeur peut parfaitement accéder au dossier et au fichier qui porte votre prénom. Clairement, mettre vos initiales sur le fichier ou sur le dossier n'est pas une bonne idée non plus. La seule solution pour que l'employeur ne puisse pas accéder à vos fichiers et à vos dossiers, c'est d'identifier clairement ceci avec la mention « personnel » et « confidentiel ». Même dans ces conditions, dès lors que l'employeur serait en mesure d'identifier un risque ou un événement particulier qui lui donnerait l'occasion d'avoir une, ce qu'on appelle une suspicion légitime, eh bien, il serait fondé à ce moment-là à accéder aux fichiers et aux dossiers malgré l'identification. Donc, s'il avait par exemple une suspicion légitime de concurrence déloyale, eh bien, l'employeur pourrait passer outre la dénomination de personnel et confidentiel. Donc, clairement, les dossiers, les fichiers, toutes les informations quelle qu'elle soit, que vous pouvez stocker pour l'ordinateur professionnel qui initialement est mis à votre disposition par votre employeur, sont des informations auxquelles celui-ci va pouvoir avoir accès de manière assez facile. Qu'en est-il maintenant des messageries professionnelles ? Eh bien, clairement, les règles sont assez alignées avec celles que je viens de vous décrire concernant le stockage des informations et l'accès à l'ordinateur. Les messageries professionnelles, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que les messages que vous recevez, que vous envoyez, sont présumés avoir un caractère strictement professionnel. Et l'employeur va avoir la possibilité, clairement, de les ouvrir en dehors de votre présence. Sauf dès lors que vous les aurez identifiés comme expressément familiaux ou personnels ou confidentiels. Voilà, c'est la seule réserve qui empêchera l'employeur d'en prendre connaissance. Ensuite, il faut savoir que des dispositions particulières peuvent aussi découler d'un règlement intérieur, d'une charte informatique. Par exemple, un règlement intérieur peut prévoir que le salarié doit systématiquement être présent lorsque l'employeur consulte la messagerie électronique. Et donc, il ne peut pas effectuer cette consultation en dehors de sa présence. Ou alors, au contraire, un texte au sein de l'entreprise, un règlement, un accord peut au contraire, comme je vous le disais, prévoir qu'il est parfaitement interdit pour les salariés d'utiliser de manière personnelle une messagerie professionnelle. Donc il convient aussi d'être vigilant aux textes internes à l'entreprise qui pourraient donc exister et dicter des pratiques particulières. Alors à ce sujet, je trouve qu'il est intéressant de vous parler aujourd'hui d'un dossier qu'on a été amené à traiter au cabinet il y a quelque temps. Donc c'était un salarié qui est venu nous voir. Ça se passait assez mal à l'époque avec son employeur et il venait d'être convoqué à un entretien préalable à son licenciement. Donc oralement, il lui avait déjà été dit qu'il allait vraisemblablement être licencié pour insuffisance. Ses chiffres et les résultats qui l'ont enregistré étaient considérés comme clairement en dessous du niveau des attentes par l'employeur. Donc il se trouve que c'était un salarié qui travaillait dans une banque française, sur les marchés financiers plus précisément, et sur le marché américain en particulier, ce qui le conduisait à travailler la nuit. Donc pour montrer, dans un contexte de dégradation de la situation avec l'employeur, pour montrer qu'il travaillait de manière très très régulière la nuit, eh bien il s'était fait suivre des mails de son adresse professionnelle à son adresse personnelle, et donc des mails qu'il envoyait à 2h, 3h du matin, des centaines de mails qu'il envoyait aux horaires de travail, donc l'idée étant de démontrer que l'employeur avait une parfaite connaissance de ce travail nocturne. Et en fait, le volume et le nombre de mails professionnels qu'il s'est envoyé sur son adresse personnelle, eh bien a attiré l'attention de l'employeur et plus précisément, en fait, du dispositif interne de contrôle, parce que dans cette banque, il y avait un dispositif qui était mis en place et qui contrôlait les flux de mails entrant et sortant et qui lançait des alertes dès lors que ces flux étaient particulièrement importants. Et donc, l'employeur qui, finalement, a eu connaissance de cet envoi massif de mails, donc on parlait d'une centaine de mails, ne l'a finalement pas licencié pour l'insuffisance de chiffres dont il était question, mais pour s'être fait suivre ses mails professionnels sur son adresse personnelle. Alors concrètement, le sujet était de savoir si l'employeur avait le droit ou pas de le licencier pour ce motif. Nous, évidemment, devant le Conseil de Prud'homme puis la Cour d'appel, nous soutenions que oui, que en fait cet envoi était indispensable pour que ce monsieur puisse faire valoir ses droits en justice, en l'occurrence faire payer les heures supplémentaires qu'il réalisait sans aucune contrepartie. Et donc, l'idée, c'était évidemment de démontrer que c'était des mails davantage dont il avait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions et dont il était, dans la grande majorité des cas, l'auteur, puisqu'à peu près 98% des mails qu'il s'était fait suivre, c'était des mails qu'il avait lui-même rédigés. Eh bien, évidemment, ce n'était pas aussi simple. Et l'employeur, lui, avait une position qui était clairement divergente de la nôtre et qui consistait à dire « Oui, mais moi, en réalité, j'ai mis en place une charte informatique qui interdisait clairement aux salariés de s'adresser des mails professionnels sur leur boîte personnelle. Donc, ce comportement était répréhensible et donc j'avais toute latitude pour procéder à son licenciement dans ces conditions. » Alors, dans ce dossier précisément, ce qui nous a sauvés clairement, c'est qu'en fait, le système utilisé par la banque n'était pas régulier. Il n'avait pas été régulièrement déposé auprès de la CNIL. Donc la CNIL, c'est la Commission nationale d'informatique et liberté. À l'époque, il fallait déposer ce type, faire un dépôt et signaler ce type d'utilisation d'outils informatiques. Et le dépôt avait bien été fait, mais il ne mentionnait pas que le dispositif pouvait avoir pour objectif de contrôler les salariés. Donc, clairement, c'est ce qui nous a sauvés dans ce dossier, mais de manière plus structurelle, évitez de vous faire suivre des mails professionnels sur votre boîte personnelle, parce que clairement, la plupart des structures aujourd'hui se dotent d'une charte informatique qui interdit ces comportements, et donc il peut y avoir des sanctions pour un usage de l'outil informatique qu'on considérerait comme non confidentiel et dangereux pour les intérêts de l'entreprise. Donc si vous avez des mails dont vous souhaitez faire état, ou dont vous souhaitez pouvoir vous servir, eh bien, je vous invite à les imprimer, mais certainement pas à vous les faire suivre, encore moins sur une adresse extérieure à l'entreprise. Alors, concernant maintenant l'historique des navigations sur les sites que vous auriez pu consulter, là encore, cet historique de navigation peut être parfaitement consulté par l'employeur de manière libre. Lorsque vous classifiez un site que vous consultez de façon fréquente dans la rubrique favori, ça ne donne pas à cet historique de navigation un caractère personnel. Donc l'employeur peut librement contrôler votre historique des sites internet visités. Et ce n'est pas pour autant une immixtion dans votre sphère privée. Et d'ailleurs, on a plusieurs exemples de licenciements qui sont intervenus en raison de l'importance des connexions Internet, parce que les salariés, précisément, passer trop de temps à consulter des sites inappropriés ou parfaitement étrangers aux fonctions professionnelles. Donc là encore, l'historique de navigation peut parfaitement être exploité par la société. Dernier sujet évoqué aujourd'hui, ce sont les propos qui sont tenus notamment sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On a plusieurs arrêts qui ont été rendus au fil de l'eau. La jurisprudence s'est construite au fil de l'utilisation de ces nouveaux outils. Et alors clairement, le sujet pour les juges, c'est de savoir si les propos qui sont tenus sur ces réseaux ont ou pas un caractère public. Parce que lorsque le caractère public des propos n'est pas établi, eh bien, en général, les juges considèrent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire qu'il ne tient pas, pour être concret. Donc, en réalité, le débat porte souvent sur le paramétrage des comptes et le fait de savoir si les salariés s'adressent exclusivement à une audience qui est donc privée, c'est-à-dire à un cercle restreint d'amis avec des échanges qui ont une nature très très limitée, ou si au contraire le compte est ouvert à tous les membres, par exemple sur Facebook, à tous les membres Facebook ou même aux amis d'amis, et auquel cas effectivement il y a un risque clairement que les propos tenus soient qualifiés de propos publics et que l'employeur puisse vous sanctionner sur le fondement de ces propos qui serait qualifié de public. Donc là encore, soyez vigilant, parfaitement vigilant à vos publications sur les réseaux sociaux. Dans certaines conditions, les propos qui sont tenus sur ces réseaux peuvent être retenus comme des propos qui vont donner lieu à une sanction. Alors voilà pour les règles applicables à l'utilisation de l'outil informatique au travail. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vivement à me le dire, à l'écrire, à diffuser ce contenu. Notamment, ce que vous pouvez faire, c'est laisser un avis sur iTunes ou une note 5 étoiles, ce qui peut m'aider à faire connaître ce podcast et à le diffuser plus largement. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des suggestions de contenu par mail ou à vous abonner également. Ce que vous pouvez faire, c'est vous abonner à la newsletter du cabinet Victoire Avocat. Voilà, je vous dis à très bientôt.